vendredi à tous les auditeurs et auditrices. Bienvenue à votre émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes le 2 février aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous, on va fermer la semaine avec vous avec grand plaisir. Ici Catherine Brunet au micro, mais je ne suis pas seule en studio. Bonjour Francine Forget.
Bonjour Catherine, vous allez bien?
Oui, ça va très bien vous-même.
Oui, vous avez passé une belle semaine?
Très complète.
Bon.
Et vous-même?
Ah, je dirais complète aussi.
Ah oui. Il fait froid aujourd'hui, en tout cas, donc on va en profiter pour prendre quelques minutes pour vous parler de revues et magazines qu'on a bien aimés cette semaine. Francine, de quoi allez-vous nous parler?
Je dirais que cette semaine, c'est placé sous le signe de l'intelligence.
Oh.
L'intelligence artificielle.
Il faut avoir peur.
Et une intelligence naturelle, celle des plantes, puisqu'on va poursuivre le dossier qu'on a déjà commencé depuis quelques semaines.
Dans Science et Vie, si je ne me trompe
pas. C'est ça, exactement.
Excellent. Et de mon côté, finalement, il me restait deux articles que je n'avais pas lus dans Caribou, qui m'ont échappé, que j'ai eu envie de vous faire découvrir ce matin. Puis si on a le temps, peut-être un peu de Leonard Cohen dans une revue que je n'ai jamais lue ici à l'émission, qui s'appelle « Lettres québécoises ». Alors, cette édition de Caribou qui nous parle d'art et design, je vous propose un reportage qui s'appelle « Quand la cuisine s'invite en culture » et c'est un texte de Christine Plante. Voici la description. « Cuisine et culture partagent la même assiette. Exposition culinaire, festival de films gourmands, performances gastronomiques et collaborations créatives. Les occasions où la gastronomie revendique une place au sein de la culture québécoise sont abondantes. Portrait d'un phénomène qui pose la question de la reconnaissance de la cuisine comme entreprise culturelle. La gastronomie devrait-elle être considérée comme un vecteur de culture contribuant à la construction de l'identité québécoise? Devrait-on soutenir, encourager, les artisans de la cuisine, chefs, producteurs et autres gens des métiers de bouche, comme sont souvent soutenus les intervenants de l'industrie de la musique, du cinéma ou de la télévision? Nous sommes peut-être encore loin du jour où les cuisiniers seront considérés comme des artistes bénéficiant de crédits d'impôt. Pourtant, la question est criante d'actualité. Quand on sait que tous les paliers gouvernementaux, municipal, provincial et fédéral, s'affairent à réviser leur politique culturelle afin de refléter les paradigmes actuels. Le fédéral mise avant tout sur le virage numérique, alors que le gouvernement québécois a mené, depuis 2016, de vastes consultations publiques afin d'établir les priorités d'un plan d'action qui sera dévoilé au cours des prochains mois. Ce renouvellement survient 25 ans après l'adoption de la politique culturelle précédente. Un quart de siècle, c'est assez pour que le paysage québécois ait largement évolué. Et s'il est un secteur qui a poussé comme un véritable champignon, c'est bien celui de la gastronomie. En 1992, le Québécois moyen n'avait jamais mangé un litchi, encore moins un sushi, et toutes les saveurs locales, si populaires aujourd'hui, sa licorne, cidre de glace et autres beautés boréales, n'étaient pas encore apparues dans notre assiette. Quant à la cuisine enseignée dans les écoles québécoises, elle était largement centrée sur les techniques françaises. Bref, le terroir d'ici, dont nous sommes désormais si fiers, était bien loin de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Au fil des années, le mouvement Foodie a étendu ses tentacules, contribuant à dynamiser un secteur économique en croissance et à fournir des emplois de plus en plus nombreux. Des chaînes de télé spécialisées ont vu le jour. Le grand public a non seulement affiné son palais, ce qui lui a permis d'apprécier de nouveaux ingrédients, mais il a aussi aiguisé son intérêt pour le secteur cuisine, bien au-delà des émissions de recettes. La gastronomie est en outre devenue un secteur culturel présentant les mêmes caractéristiques que l'industrie de la musique ou du cinéma. On a vu naître un star system peuplé de chefs vedettes. On publie des livres de recettes qui se vendent comme des petits pains chauds. Les auteurs de livres sur la gastronomie signent plus d'autographes que les grands noms de la littérature. Et on assiste à une multitude d'ouvertures de restaurants qui font la manchette à la manière des tapis rouges des soirs de première. Dans la même mouvance, les occasions de rassemblement autour de la thématique culturelle culinaire sont de plus en plus diversifiées et le nombre de festivaliers continue d'augmenter. Quelque part dans le processus, le point de bascule entre opérations commerciales de type « je viens au festival pour acheter un repas » et consommation culturelle du genre « Je viens vivre des émotions, semble avoir été atteint. Selon Luc Dubanchet, fondateur de l'Omnivore World Tour, ce phénomène repose sur les épaules des chefs, des gens qui ont su trouver une voie culturelle forte. L'essence de ce festival imaginé à Paris et qui visite Montréal depuis 2012 consiste en mettre à valeur des créateurs avant tout qu'on vient voir performer en personne, sur scène, à la manière de DJ. Dans les vastes locaux de la Société des arts technologiques au centre-ville de Montréal. Gaëlle Serre est une autre grande ambassadrice de la culture culinaire, celle qu'on connaît surtout pour son rôle d'instigatrice de la cuisine de rue à Montréal, s'intéresse aujourd'hui à une cause tout aussi mûre selon elle, la défense de la scène culturelle culinaire et sa reconnaissance par les instances publiques. Cofondatrice et directrice de la programmation du festival YUL, YUL, EAT, et des premiers vendredis, elle travaille actuellement à la création d'un centre culturel axé sur la gastronomie qui serait le théâtre de festivals, d'événements et d'autres rassemblements culinaires et artistiques. À son avis, le besoin de reconnaissance est criant. D'un point de vue administratif, le festival culinaire sont considérés comme des foires commerciales sans contenu culturel. L'ironie dans tout ça, c'est que toutes les industries culturelles, théâtre, cinéma, musique, etc., sont basées sur un modèle commercial. Tout le monde vend des billets. Plus évident encore, le lien qui marie cuisine et culture se déploie au cours d'événements qui unissent l'art culinaire à d'autres formes d'expression artistique. C'est le cas de la Grande Table, un jeune festival qui a lieu au Jardin de Métis en Gaspésie et qui porte sur le patrimoine culinaire québécois. Au menu, les repas et les banquets côtoient un parcours sensoriel, une bière littéraire ou encore une tente à lire où les visiteurs peuvent découvrir avec leurs gamins des ouvrages gastronomiques. Par ailleurs, en 2017 se déroulait dans Charlevoix la toute première édition de Cuisine, Cinéma et Confidence, un festival qui présente des classiques du répertoire ayant un lien particulier avec la gastronomie, toute époque et origine confondues. Selon Emmanuelle Héroux, directrice de la programmation du Centre PHI à Montréal, c'est indéniable, la cuisine est un art, au même titre que les autres formes d'expression artistique. Travaillant avec des chefs d'ici et d'ailleurs, le centre propose une programmation culinaire alliant des conférences avec des grands artistes de la gastronomie tels que l'Italien Massimo Bottura, le Suédois Magnus Nilsson ou encore la Slovène Anne Ross, à des expositions de photos culinaires, des expériences immersives ou des créations en réalité virtuelle. Nous voulons donner aux chefs la chance de créer sans restriction. Au printemps 2017, était déposé dans la capitale gastronomique de la province le mémoire pour la reconnaissance de la gastronomie comme industrie culturelle et créative. Présenté conjointement par les porte-paroles Lisa Frula de l'ITHQ, Yves Lalumière du Tourisme Montréal et Normand Laprise du Toquet. Ce mémoire où la gastronomie est présentée comme une composante incontournable de l'attractivité et du branding de la métropole a été accueilli favorablement. Montréal a donc officiellement entériné, au début de l'été 2017, la présence de la gastronomie au sein de sa politique culturelle, ce qui représente une victoire en soi. Manuela Goya se réjouit de cette nouvelle. D'après la secrétaire générale du Comité Montréal Métropole Culturelle, c'est le début d'une lancée. La gastronomie québécoise a tout avantage à s'afficher comme une des grandes gastronomies du monde. Les pouvoirs publics ont pour rôle de créer un environnement propice au développement de ce secteur qui bouillonne déjà. Le dévoilement de stratégies de valorisation culturelle reste à venir, mais concrètement, le mémoire proposait la création d'un bureau de la gastronomie qui serait le mandataire de la ville pour faire avancer ce dossier. De l'aide au festival culinaire? Un programme jeune créateur à l'image de celui mis au pied par la Société de développement des entreprises culturelles? Un programme de rayonnement de nos artistes culinaires à l'international? Les moyens de se faire fleurir la créativité dans ce domaine restent une terre à défricher. Une chose est sûre, la gastronomie québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui est jeune, mais elle est aussi fougueuse et pleine d'ambition, comme une adolescente qui revendique sa personnalité et son identité. Il est temps de lui donner les moyens d'entrer dans la cour des grands.
Thank you.
chaque dimanche, Catherine, dans la presse plus, il y a une section Paris Match avec des articles People, évidemment, mais aussi parfois des dossiers très étoffés. Alors, dimanche dernier, on y retrouvait un dossier sur l'intelligence artificielle. En deux parties, alors, dans un premier temps, je vous lis un article de Romain Clergeat, Bataille au sommet. Mark Zuckerberg avait préparé son attaque. En juillet dernier, le patron de Facebook organise un chat depuis le jardin de sa maison de Palo Alto. On le voit retourner des grillades sur son barbecue tout en répondant aux internautes. Enfin arrive la question, celle sur l'intelligence artificielle, l'IA. Depuis quelques mois, le battage médiatique est orchestré par Elon Musk. Il veut alerter sur les dangers d'une technologie qui pourrait échapper à tout contrôle. Je ne comprends pas ces gens qui imaginent des scénarios catastrophes. Ce sont des propos irresponsables, lâche Zuckerberg. Le lendemain, Elon Musk réplique par un tweet cinglant. J'ai parlé avec Mark, sa compréhension du sujet est limitée. Si Elon Musk sonne le tocsin, c'est certainement au regard du défi posé à l'humanité tout entière par cette IA, mais aussi parce qu'il n'a pas envie de devenir un employé de Mark Zuckerberg. Pour faire simple, l'intelligence artificielle se nourrit de deux choses, la puissance de calcul et une montagne de données, data en langage international. Or, qui de Tesla ou de Facebook possède les calculateurs les plus gigantesques et la masse d'informations la plus importante? Facebook a 2 milliards d'utilisateurs. Et Elon Musk l'a bien compris. Demain, les voitures autonomes et les fusées seront commandées par l'IA. Si elle est produite par Facebook, Google ou Amazon, ceux avec Apple qu'on appelle les GAFA, Elon Musk, comme nous, passerait peu ou prou sous le contrôle. La guerre de l'intelligence artificielle a commencé. Ce n'est pas seulement une bataille entre entrepreneurs milliardaires, mais une guerre algorithmique pour une maîtrise du monde entre deux superpuissances, la Chine et les États-Unis. Robert Work, un des responsables du Pentagone à avoir survécu à la prise du pouvoir par Trump, se rappelait dans le New York Times d'une discussion avec les plus brillants ingénieurs de l'armée américaine, ceux qu'il appelle « mes petits gars de l'IA ». Alors, c'est vous les types les plus forts en intelligence artificielle, n'est-ce pas? Non, monsieur. Les plus forts sont chez Facebook ou Google. Et en Chine. Le pays de l'oncle Sam vacille dans un secteur dont il avait le leadership depuis un siècle, la haute technologie. De la finance à la communication en passant par le militaire, les États-Unis donnaient le ton. Avec l'irruption de l'intelligence artificielle, les cartes sont rebattues. Quand les Américains ont été dépassés par Tiani, le supercalculateur chinois, pris de panique, ils ont interdit l'exportation des puces électroniques. Las, 2 ans plus tard, les Chinois présentaient leur nouveau modèle, le Tiani 2, plus performant. Mais cette fois, construit avec du matériel chinois, puces comprises. Comme les Américains face aux Russes pendant la conquête spatiale, les Chinois ont leur moment Spoutnik. L'instant où ils ont réalisé que le camp d'en face possédait une technologie bien plus avancée. C'était en 2016, lorsqu'une intelligence artificielle a pour la première fois battu le champion du monde de Go, un jeu inventé par les Chinois. Un tel exploit signifiait que tous les possibles étaient désormais probables et que l'avenir se niche dans les lignes de code des algorithmes. La Chine a donc décidé d'y consacrer d'immenses ressources. Ce qui inquiète les États-Unis, c'est que la Chine possède, à terme, plus d'avantages qu'eux. Elle a la puissance de calcul, elle a aussi les datas. Hier, les algorithmes supérieurs dépendaient des meilleures lignes de code. Le pays qui avait les ingénieurs les plus doués faisait la course en tête. Les choses étaient simples. Si un petit codeur de génie apparaissait en Chine, il suffisait de lui proposer un pont d'or pour l'attirer en Amérique. Et la question était réglée. Aujourd'hui, avec l'IA et la technique du machine learning, l'algorithme prend lui-même sur la base de millions d'exemples. Plus il ingurgite, meilleur il devient. Or, la Chine est une gigantesque cascade de données. En une seule journée, Cette nation de 1,3 milliard d'habitants, dont 750 millions connectés à l'Internet, soit le double des États-Unis, en produit plus que presque tous les autres pays réunis. Sans compter la force d'un régime qui ne se préoccupe ni des lois sur les libertés individuelles, ni de régulation sur les expérimentations en tout genre. En juillet, la Chine a affiché ses objectifs et ils ne rassurent pas l'Amérique. Elle a décidé d'être au niveau des meilleurs pour 2020. En 2025, l'intelligence artificielle sera la force première de toute son industrie. Et en 2030, le pays devra être le leader mondial de l'IA. Les conséquences seront gigantesques, car l'IA s'applique dans tous les domaines, de l'éducation à la santé, en passant par le commerce, la finance et tous les espaces stratégiques. Déjà, certains chiffres sont éloquents. En 2017, un rapport de la Maison-Blanche soulignait que l'ensemble des publications scientifiques chinoises consacrées à l'intelligence artificielle dépassait la somme de celles générées par les États-Unis. Mieux encore, dans un concours sur la reconnaissance faciale, un algorithme chinois a décroché les trois premières places devant Google, Microsoft et Facebook. Comme l'expliquait récemment James Lewis du Center for Strategic and International Studies, ils ont tout en main et un carnet de chèques avec lequel on ne peut pas rivaliser. On investit des millions, ils mettent des milliards. On ne peut pas gagner avec un tel écart. Même s'il n'était qu'à moitié efficace, le rapport resterait de 500 à 1. De cette guerre, Trump ferait bien de se préoccuper. Comme le dit Elon Musk, l'intelligence artificielle est plus dangereuse que la Corée du Nord. Alors, un dossier dans le Paris Match qu'on va poursuivre un peu plus tard.
Tout le monde est triste. Tous les gens sont gris. Le cœur qui sommeille vit aux abris, y a pas de saison. S'abrit dans la maison, car rien ne se salit. Faut repasser les chemises et les blousons, mais rien à l'horizon. Y'a plus de saison. Le corps est trop petit, trop fragile dehors. Le corps est trop petit, trop fragile dehors.
Steffi Choc et sa chanson « Tout le monde est triste ».
Nous sommes de retour au Voix de service magazine. Francine Forget, vous avez débuté un article avant cette courte pause musicale et là, vous allez la poursuivre.
Oui, c'est ça. Alors, deuxième partie du dossier sur l'intelligence artificielle dans Paris Match, l'Europe est en train de perdre la bataille. Alors, Romain Clerjat a réalisé une entrevue avec le docteur Laurent Alexandre, qui est un des gourous de l'intelligence artificielle en Europe. Paris Match, en quoi l'irruption de l'intelligence artificielle vous fait-elle dire que le 21e siècle sera une période d'accélération technologique qui laissera l'humanité clouée sur son siège? Sa réponse, avec l'IA, tout se précipite. La redistribution des cartes technologiques, économiques et donc géopolitiques est brutale. Après les GAFA, je rappelle, Google, Amazon, Facebook, Apple, le BATX, son équivalent chinois. Le Tencent, équivalent chinois de Facebook, est déjà la cinquième plus grande entreprise au monde, 500 milliards de dollars de valeur. Et beaucoup de ses inventions sont transgressives. Au 20e siècle, il y a eu beaucoup de drames, mais on n'a pas changé l'homme. Ça va arriver pour la première fois. Pourquoi l'IA explose-t-elle si soudainement? En 1938, l'ordinateur Z1 réalisait une opération par seconde. Bientôt, en 2020, un calculateur, Exascale, réalisera 1 milliard de milliards d'opérations à la seconde. À cela s'ajoute le flot de données qui va nous submerger et encore faire progresser l'intelligence artificielle. En 2020, nous produirons 1 000 milliards de milliards de données chaque semaine. Or, pour éduquer l'IA, il faut des millions d'exemples. Un bébé reconnaît une girafe quand il en a vu 3. L'IA a besoin d'en voir des milliers, des millions même. La prime va à ceux qui contrôlent nos portables dans lesquels nous mettons jour et nuit des monceaux d'informations. L'Europe n'a pas vu venir ce problème. Résultat, elle n'a pas aujourd'hui les moyens d'éduquer de l'intelligence artificielle. On a beau avoir les meilleurs mathématiciens du monde, ils sont à l'IA, ce que la peau de bête est à Louis Vuitton. L'intelligence artificielle sera-t-elle l'arme absolue du 21e siècle? Poutine en a pris conscience. C'est la réponse du docteur. Il vient de déclarer que celui qui contrôlera l'intelligence artificielle sera le maître du monde de demain. Aujourd'hui, entre d'un côté l'armée américaine, Washington et les GAFA, et de l'autre Pékin, l'armée du parti et les BATX, il n'y a rien. L'IA s'invente sur les rives du Pacifique. Question, comment l'IA va-t-elle toucher la base même du développement humain, à savoir l'éducation? La rapidité d'apprentissage de l'IA est multipliée par 100 chaque année. Dupliquer une IA prend 1 millième de seconde. Il faudra utiliser des technologies pour augmenter les capacités intellectuelles, cognitives et de mémorisation et éviter que les gens moins doués ne soient abandonnés. Cela pose des problèmes éthiques, moraux, philosophique. Et dans 30 ans, il sera difficile à l'Europe d'interdire aux parents de prendre l'avion pour amener leur gamin en Chine, se faire implanter une puce, lui conférant un QI supérieur de 30% à la moyenne. Hormis les implants neuronaux, que peut apporter l'IA dans le domaine de l'éducation? Une personnalisation de l'enseignement. Grâce à un algorithme qui comprendra pourquoi tel enfant a du mal à apprendre les mathématiques, pourquoi tel autre est en retard en français. Or, qui aujourd'hui connaît le mieux nos cerveaux? Les GAFA et les BATX, encore une fois. Et toujours par l'intermédiaire de nos téléphones. Le meilleur logiciel de personnalisation de l'éducation viendra des géants du numérique. Et dans le domaine médical? L'IA est déjà 1000 fois plus rapide qu'un généticien du cancer. Demain, elle le sera 1 million de fois. Google fait d'énormes projets dans ce secteur. Ils font des études sur des centaines de milliers de malades. Quand le professeur Duchemin à Cochin en fait sur 28 cas de sclérose en plaques ou 50 leucémies. Un radiologue peut distinguer 13 nuances de gris. Une IA, des millions. Pour faire un logiciel de personnalisation de la santé ou de l'éducation, il faudra entre 500 et 600 millions d'utilisateurs. L'Europe est en train de perdre la bataille dans ces deux secteurs clés. Or, il y a tout juste 10 ans, on était leader dans ce domaine et Nokia avait 55% du marché mondial. Elon Musk a créé Neuralink dans l'espoir d'inventer une puce permettant d'augmenter les capacités de notre cerveau. On parle de quelle échéance dans le temps, selon vous? Mark Zuckerberg veut faire la même chose, de manière non invasive, avec des casques télépathiques qui sortiront en 2019. Cette technique vise à permettre à nos cerveaux de mieux se développer, d'avoir plus de mémoire. Musk a dit qu'il allait commencer par les malades frappés par l'Alzheimer. Et selon les résultats, on ira vers les bien portants jusqu'aux enfants. On parle de 2050. En revanche, les premiers tests sur les patients se font dans les 5 ans. Mais déjà, certains épileptiques graves sont pourvus d'implants intracérébraux. Or, que constate-t-on? Qu'en manipulant des fréquences, on augmente leur mémoire de 30%. Après-demain, ce sera peut-être 70%, puis 300%. Dans Paris Match, un dossier paru le 29 janvier 2018 dans la Presse Plus.
Merci beaucoup, Francine. Très intéressant comme dossier sur l'intelligence artificielle. Les voies de service, on vous revient tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous, d'autres bons articles de Francine et moi-même, Catherine. À tout de suite.
Pleurer des larmes de béton.
Brett Fortin, sa chanson Le Mur. Mademoiselle.
Merci beaucoup. Alors, on poursuit nos revues, nos magazines, en ce vendredi 2 février. Je poursuis dans le Caribou, toujours. Là, j'approche vraiment à la fin. Donc, c'est la fin, c'est le cas de le dire, parce qu'on parle de nourriture. C'est un article qui nous parle de art culinaire. Cette fois-ci, ça s'appelle « Jouer avec la nourriture ». C'est une entrevue avec la designer culinaire Delphine Huguet. C'est un texte de Jessica Aymon-Ferrat. Qu'est-ce que le design culinaire? Quand on pose la question à Delphine Huguet, qui a assisté dans le cadre de ses études à l'École supérieure d'art de design de Reims, au premier cours sur le sujet proposé par un pionnier dans ce domaine, Marc Brétillot, elle dédaigne son téléphone intelligent. « J'ai tendance à ne plus définir mon travail. Je montre plutôt des images. C'est plus facile à comprendre », rigole cette Parisienne d'origine. Après une résidence à la Société des arts technologiques de Montréal et des collaborations avec l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, Delphine Huguet s'est installée à Montréal avec son amoureux québécois. Caribou a rencontré celle que le magazine Gold & Milo a qualifiée de « papesse du design culinaire ». Concrètement, en quoi consiste votre métier? Ma pratique est essentiellement artistique. Je crée des expériences et des œuvres pour des événements en collaboration avec des institutions culinaires. Je m'intéresse à la portée que les aliments peuvent avoir. Par exemple, j'ai déjà organisé un dîner au lieu du design à Paris, dans lequel les plats ressemblaient à des animaux empaillés. On avait un délicieux lapin cuit dans une coque d'argile qui arrivait sur la table dans un terrier de terre surmonté d'une tête en fourrure. Je voulais qu'on fasse vraiment face à l'animal. C'était assez troublant. En Europe, je suis souvent invitée à faire des résidences en milieu scolaire. Récemment, j'étais à Boulogne-sur-Mer, où, avec les élèves, on a construit 4 immeubles en carton pour évoquer ceux en béton que les habitants de la ville détestent. On en a fait des fumoirs dans lesquels on a fumé du hareng avec des herbes du littoral. L'idée était de valoriser et d'apprivoiser le patrimoine de la ville. Je fais aussi beaucoup d'interventions en milieu hôtelier, surtout en Europe. Est-ce que le Québec, où vous habitez depuis quelques années, vous inspire? Oui, depuis un an, je prends part au projet Code Souvenir Montréal avec le Bureau du design de la ville pour proposer dans les boutiques des musées notamment des souvenirs de Montréal qui racontent un morceau de l'histoire de la métropole. J'ai créé des meringues en forme de bout de route, de brisures de chocolat du Saint-Laurent, de cailloux du Mont-Royal. Du côté des expositions, je pense à la zone aurorale, une expérience immersive présentée en 2013 pendant la nuit numérique du Centre culturel Saint-Exupéry à Reims. Je l'avais réalisée avec le designer sonore Philippe Le Goff, qui avait enregistré le son des craquements des icebergs dans le Grand Nord canadien. Ce son accompagnait la dégustation de la neige que j'avais conçue. Celle-ci était en fait un sorbet aromatisé aux épices inuites. En outre, elle était phosphorescente pour évoquer les aurores boréales. Vous êtes une pionnière dans le milieu, mais est-ce que le métier de designer culinaire est répandu? Depuis que je suis sortie de l'école en 2004, il y a de plus en plus de formations qui créent en France, en Belgique. Au Québec, il y a l'ITHQ qui donne des cours de créativité pour éveiller les étudiants au lien entre les arts visuels et la haute gastronomie. Mais sinon, c'est encore très peu répandu. La nourriture est-elle un matériau artistique comme les autres? Quel genre de défi présente-t-elle? Parfois, j'aurais envie de faire des trucs monumentaux, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut un public suffisant pour éviter le gaspillage alimentaire. Et en soi, l'utilisation de la nourriture pour faire de l'art pose problème dans les milieux un peu élitistes. On est tous obligés de manger pour vivre. Est-ce que ce geste peut être artistique alors qu'il relève de la nécessité? Je crois que oui. On ne mange pas de la même manière pour se nourrir que lorsqu'on se trouve dans un événement de gustation où on cherche à susciter une réaction. Mais c'est vrai que, comme me l'avait dit un stagiaire d'origine africaine quand je travaillais à la SAT, le design culinaire est un art pour les peuples rassasiés. Cela dit, vous utilisez souvent votre art pour communiquer des messages et pour éduquer. J'ai aussi des projets plus ludiques, mais je me sers en effet beaucoup du design culinaire pour ouvrir la discussion sur des sujets problématiques. Je pense à ma collaboration avec les producteurs de sirop d'érable du Québec. J'avais conçu une forêt miniature composée de produits à base d'érable. qui m'a permis de parler des pluies acides et des problèmes écologiques auxquels les érablières peuvent faire face. Et ce crève-cœur de créer des œuvres forcément éphémères, est-ce que crève-cœur de créer des œuvres forcément éphémères, puisque destinées à être mangées? Ce qui est bien, c'est que le souvenir des œuvres dégustées reste longtemps dans l'esprit des gens, mais c'est sûr que des fois, j'aurais bien envie de faire quelque chose de plus pérenne. Heureusement, il m'arrive de fabriquer des objets. Pour un cocktail dînatoire à l'ITHQ, j'avais conçu 25 assiettes en céramique, qui existent donc toujours, représentant une carte simplifiée du Québec. Le but était de valoriser les différentes cultures culinaires d'ici, et avec la chef de l'ITHQ, on avait préparé des bouchées inspirées par les aliments produits dans les différentes régions. Dans le sud de l'assiette, on avait de l'agneau, de la courge, de la pomme. Dans le nord, du phoque. Dans les Laurentides, du wapiti, du cerf, du doré. Sur la côte nord, des huîtres. Vous avez grandi en France et travaillé dans plusieurs pays. Comment voyez-vous la culture culinaire d'ici? Le Québec, c'est la jeunesse. J'ai travaillé au Japon, en France, au Maroc, qui sont tous de vieux pays avec des cultures culinaires hyper ancrées. En comparaison, celle du Québec se construit donc dans la liberté. Ici, on est prêt à essayer, on a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, c'était un court article avec la designer culinaire Delphine Huguet, sur le texte de Jessica et Montferrat, toujours dans Caribou.
Science et vie, alors suite du dossier sur l'intelligence des plantes qu'on a commencé il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Véreras en est l'auteur et c'est paru dans la livraison de décembre 2017. Cette fois, on parle de leur expérience et finalement de leur manière d'être capable d'en tirer des leçons, si je peux dire ainsi, si je peux m'exprimer ainsi. Certes, les fleurs des passiflores sont splendides, mais c'est moins la grâce printanière de cette petite liane grimpante que son étonnante capacité à apprendre de ses erreurs qui a séduit Francis Allais. C'est un très bel exemple de comportement intelligent. Le botaniste français nous invite à jouer un peu avec une passiflore en plantant un bambou à quelques centimètres d'une de ses jeunes pousses. Elle envoie une première vrille, un peu comme un lasso, pour s'approcher et grimper sur le support. Or, si on décale à présent celui-ci légèrement sur la droite, la liane doit faire de même. Si on répète l'opération de 5 à 6 fois, la liane anticipe son prochain lancer en le décalant aussi légèrement vers la droite du bambou. Incroyable! Échaudée par le jeu de dupes, la passiflore a ni plus ni moins appris à ne plus tomber dans le panneau. Cet exemple illustre à merveille les capacités d'anticipation des végétaux, à l'image de ce que nous avions déjà pu observer pour le développement racinaire, se réjouit le botaniste britannique Anthony Trevevas, qui s'est lui aussi pris de passion pour cette petite liane. Ce qui au passage lui a valu quelques emails de la part de neurologues subjugués. Comment en effet une plante peut-elle présenter une telle capacité d'apprentissage? Les spécialistes de la cognition végétale n'ont pas encore ici un mécanisme précis en tête. L'apprentissage fait appel à la fois à la mémoire et à la prise de décision, et il est donc probable que les mêmes processus moléculaires soient à l'œuvre, avance Monica Gagliano, spécialiste du comportement des plantes à l'Université d'Australie-Occidentale. Cette jeune chercheuse était à l'origine spécialisée du comportement des animaux, et c'est sûrement ce qui l'a inspirée pour mettre sur pied la plus étonnante expérience d'apprentissage végétal que l'on pourrait baptiser le petit pois de Pavlov. L'expérience originale, réalisée par le Russe Ivan Pavlov au début du 20e siècle, concernait les chiens. Après avoir présenté à plusieurs reprises une gamelle à ses animaux, averti au préalable par une cloche, il observa que le seul son de celle-ci suffisait à les faire saliver, quand bien même il cessait de leur présenter leur pitance. Les chiens avaient ainsi appris à associer la cloche à la récompense. Or, le petit pois, lui aussi, semblent capables de réaliser cet apprentissage associatif. Monica Gagliano a jaugé la capacité des jeunes pousses de petits pois à anticiper l'arrivée de la lumière en fonction d'un signe annonciateur a priori neutre pour la plante, le souffle du vent. À chaque fois qu'il se manifestait d'un côté de la plante, la lumière finissait par pointer du même côté. Résultat, tout comme les chiens, les plantules ont, dans une majorité des cas, appris à associer le vent à l'arrivée de la lumière. Statistiquement, l'apprentissage semble toutefois moins efficace que chez le chien. Un peu plus de 60 % des plantes retiennent la leçon, contre plus de 90 % des chiens. Il faut comparer ce qui est comparable, nuance Monica Gagliano. En choisissant de suivre le vent, les plantes s'opposent beaucoup plus ouvertement à leur instinct que le chien. Elles prennent une décision extrêmement risquée et potentiellement coûteuse sur le plan énergétique. L'étude fait encore débat, mais force est de reconnaître que ces résultats résistent à l'analyse critique, commente Bruno Moulia, chercheur à l'INRA de Clermont-Ferrand, qui a décidé de reproduire l'expérience dans son laboratoire. Si cela se confirme, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, un véritable changement de paradigme. De fait, on savait déjà les plantes capables d'apprentissage dit primaire, soit par habituation, comme le Mimosa pudica, surnommé aussi la sensitive, en référence à ses feuilles qui se referment au moindre à-coup. Ce mimosa apprend à ne plus craindre des secousses répétées lorsqu'elles se révèlent au fond inoffensives. Soit par sensibilisation, comme ces nombreuses plantes qui apprennent à se défendre plus rapidement dès la deuxième agression d'un pathogène. L'apprentissage du petit pois de Pavlov, qui le même a associé deux stimuli indépendants, est une faculté cognitive d'un ordre bien supérieur. Les neuroscientifiques suspectent en effet que l'apprentissage associatif, jusque-là connu pour être l'apanage des animaux, est un des maillons clés pour enchaîner des comportements de plus en plus sophistiqués. Une simple appétence pour une noix chez les chimpanzés peut aussi conduire, par association successive, à manier l'outil, en l'occurrence une pierre en guise de casse-noix. Mais dans leur monde si différent, quels avantages les plantes pourraient-elles tirer d'une telle capacité cognitive? Dans un environnement complexe et en changement permanent, savoir utiliser des informations complémentaires, pour localiser au mieux les ressources et en premier lieu la lumière a de fortes chances d'accroître les chances de survie, explique Monica Gagliano. À l'image d'un prédateur apprenant à mieux pister sa proie à l'aide de différents signes annonciateurs, les plantes, prises dans le même courant de la sélection naturelle que les animaux, auraient ainsi développé la même capacité d'apprentissage. Dans Science et Vie, poursuite la semaine prochaine.
L'influence du design urbain sur l'alimentation des citoyens. On dit souvent que l'alimentation est un choix personnel. En effet, c'est à vous que revient la décision d'ingérer ou pas un aliment ou une boisson. Toutefois, on oublie souvent que l'environnement représente aussi un facteur important qui influe sur vos décisions. Ceux qui œuvrent à planifier, à designer et à construire les espaces agissent sur le contenu de votre assiette, sans même que vous vous en rendiez compte. Les quelques éléments qui suivent montrent bien ce lien entre la construction des villes et le menu de les habitants. C'est un texte de Bernard Lavallée. Les jardins communautaires. Les jardins communautaires sont des terrains cultivables séparés en jardinets que les villes mettent à la disposition des citadins. Leur nombre explose dans la province et Montréal est une pionnière en la matière. Elle possède le plus important programme de jardins communautaires au monde, démarré en 1975 et comptant aujourd'hui plus de 8500 jardinets. Les villes qui misent sur ces programmes offrent à leurs citoyens un accès privilégié à une diversité d'aliments frais à moindre coût. Selon certaines études, les gens qui s'impliquent dans ces activités augmenteraient leur consommation de fruits et légumes, ce qui contribuerait à leur sécurité alimentaire, notamment dans le cas des ménages à faible revenu. Les déserts alimentaires. Un désert alimentaire est un secteur où peu de commerces favorisant une saine alimentation, comme des supermarchés, des épiceries ou des marchés publics, sont implantés et qui est défavorisé sur le plan socio-économique. Au Québec, près d'une personne sur deux, 45,5%, vit dans un secteur offrant peu de commerces alimentaires et environ 6% des gens habitent dans un de ces déserts. Cette situation est encore plus fréquente en milieu rural, où elle touche environ 13% des gens. Les fontaines d'eau. La surconsommation de sucre libre est associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'obésité et aux caries dentaires. Et les boissons sucrées représentent une des principales sources de sucre libre dans l'alimentation des Québécois. Or, dans la province, un consommateur sur deux juge qu'il est plus facile de trouver des boissons sucrées qu'une fontaine d'eau quand il veut se déshydrater. Pourtant, installées dans les espaces publics, les fontaines d'eau offrent une solution de recharge gratuite et saine aux citoyens qui ont besoin de s'hydrater. Les restaurants rapides près des écoles. La facilité d'accès est un des principaux facteurs qui pousse les gens à aller manger dans un restaurant rapide. Les chaînes de fast-food l'ont compris et choisissent de s'installer près des lieux fréquentés par leurs clients potentiels, comme les écoles. Au Québec, en milieu urbain, près d'une école publique sur deux, 46%, est située à moins de 500 mètres d'un restaurant rapide. Même si seulement quelques études préliminaires ont été consacrées à ce sujet, il semble que les jeunes fréquentant une école située à proximité de ces commerces consommeraient davantage de boissons sucrées et auraient une alimentation moins saine que la moyenne des élèves. Les marchés publics. Les marchés publics représentent une solution pour pallier l'offre réduite dans des déserts alimentaires. Certaines études ont ainsi associé une meilleure alimentation au fait d'habiter près d'un marché public. Leur implantation peut être beaucoup plus rapide et moins coûteuse que la construction de supermarchés et permet la valorisation de l'agriculture locale en plus de représenter un lieu de sociabilisation et d'offrir aux clients l'occasion de découvrir de nouveaux produits. Au menu des municipalités des environnements favorables. Du point de vue de la recherche, les liens entre l'urbanisme et l'alimentation sont encore au stade embryonnaire. Cela dit, selon Sophie Paquin, docteure en urbanisme et travaille pour la Direction générale de santé publique du CIUSSS, centre-sud de l'île de Montréal, il est important que les villes réalisent qu'elles détiennent le pouvoir de mettre en main des environnements favorables à la saine alimentation. D'ailleurs, dans les 5 dernières années, il y a eu une accélération des projets en ce sens dans l'ensemble du Québec. On peut penser aux villes de Gatineau, Granby, Sherbrooke et Rimouski, qui sont parmi les premières à s'être dotées de politiques alimentaires afin que tous les acteurs concernés travaillent à offrir un environnement urbain favorisant de meilleurs choix alimentaires. Ces politiques ont pour but, par exemple, de faciliter l'accès à des aliments sains dans les infrastructures communautaires et culturelles, ainsi que dans les lieux dédiés aux loisirs, au sport et au plein air des municipalités. Et voilà, c'était un texte de Caribou par Bernard Lavallée.
Je sens, Catherine, que vous avez le goût qu'on revienne sur les gadgets dont on a commencé à parler la semaine dernière.
Mais on n'a pas pu voir la fin de cet article.
C'est ça. Alors, c'est des gadgets utiles ou inutiles, hein, selon le point de vue de chacun, qui peuvent changer peut-être une vie ou pas. Alors, c'est Evelyne Naudet dans la Presse Plus qui, à la suite de sa visite au grand show Consumer Electronics de Las Vegas, faisait état là, de certaines choses qui avaient attiré son attention. Faire un appel du bout de son doigt. Mm-hmm. L'entreprise en démarrage coréenne, Einem The Lab, a créé un produit, un bracelet qui transfère les ondes sonores vers le doigt pour que celui-ci agisse comme récepteur. Conçu à l'aide d'une technologie qui s'appelle Body Conduct Unit, le bracelet utilise la conduction osseuse pour transmettre le son du poignet au bout du doigt. L'utilisateur n'a qu'à appuyer sur son oreille avec son doigt pour entendre, tandis que le micro intégré au bracelet capte le son émis par la parole. Le bracelet comprend aussi un podomètre qui mesure certaines données relatives à l'activité physique. Ces données peuvent ensuite être consultées dans l'application compatible avec Android et iOS. Le produit sera livré à partir du mois de mars et devrait se détailler aux alentours de 200 $. Quand même! Des semelles qui savent tout, l'entreprise Zortech est derrière la technologie qui a permis la création de nouvelles semelles connectées. Les capteurs des semelles peuvent récolter plusieurs données sur le nombre de pas faits, la posture adoptée et le niveau de fatigue de la personne qui les porte. Elles peuvent ainsi prévenir les blessures en analysant les mouvements les plus à risque et indiquer quand la chaussure arrive en fin de vie. Finalement, elles ont la capacité de détecter les chutes puis d'envoyer une alerte sur l'application qui y est associée. Cette innovation s'avère efficace, notamment pour les travailleurs de chantier et les sportifs. Vous semblez bien impressionnée, Catherine, par cette semelle qui sait tout.
Mais je me dis qu'il faut qu'elle se dépêche à nous avertir qu'on va chuter par l'application
oui,
de notre téléphone.
Oui, 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 mais elle doit avoir un sixième sens, peut-être, qu'on n'a pas. Ah, protéger sa virilité. L'entreprise française Spartan, et ça, c'est sur le marché. Depuis quelques mois seulement, un caleçon pour homme qui est conçu pour protéger les parties intimes des ondes électromagnétiques diffusées par les téléphones portables et les connexions sans fil. Le produit est doté de la technologie de pointe brevetée appelée WaveTech. Cette dernière est une composition de coton dans laquelle sont incorporés des fils d'argent pur, ce qui bloquerait plus de 90 % des ondes. Le produit au design moderne, fabriqué en Europe, serait encore plus confortable que les caleçons fabriqués avec des matières traditionnelles. En plus, il est hypoallergénique et antibactérien. Mm-hmm. C'est déjà offert en 3 couleurs. 62 $, 42 €, plus les frais de livraison. Un soin de la peau selon le besoin du jour. Alors, en novembre dernier, Romy Paris a lancé un mini-laboratoire qui distribue un sérum pour la peau frais du jour et préparé en fonction des besoins de celle-ci. L'application qui est rattachée recueille des données sur l'environnement, les activités et les habitudes de vie, en fonction des données enregistrées. Figure prescrit la combinaison de produits dont l'utilisateur a besoin à cet instant même. Il ne reste plus qu'à insérer dans l'appareil les capsules d'ingrédients actifs correspondant à cette combinaison et appliquer le sérum fraîchement concocté sur la peau. Une première version du produit a vu le jour en novembre dernier. Elle est offerte au prix de 1175 $. Disons que c'est un petit bémol.
Pas
une nouvelle
tous,
version sera probablement plus abordable sous peu. Alors, bien d'autres gadgets dont on pourra parler la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Francine Forget. Alors, c'est peut-être avec un doigt que je vous dis bonne journée, bon week-end à tous. On se retrouve vendredi prochain pour d'autres revues de magazines et peut-être un peu de littérature d'ici. À suivre. Merci beaucoup, Catherine Brunet, au micro. À bientôt, tout le monde.